les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour, je suis Pauline et vous êtes en direct sur les ordres du Principe Actif 102.4. Nous sommes dans les locaux de la maison de quartier de Netreville et nous allons passer une heure avec vous, en compagnie de mes camarades Keisha, Daouda, Lisa, Maxime, Idrissa, Mohamed et Jawad. Nous débutons tous dans l'univers de la radio, mais nous espérons malgré tout que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie.
Bonjour, je m'appelle Keisha, je vais vous présenter le sommaire. Nous allons commencer par le clash des rappeurs, ensuite par le projet Maroc et nous allons terminer par le reportage des pompiers.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Bonjour, moi c'est Daouda avec mes camarades Idrissa et Jawad. Nous avons préparé un micro-trottoir à propos des clashs. Nous avons sillonné les rues de Netreville à la recherche de différents avis et différentes visions que les gens ont sur les clashs et le rap. Écoutez.
Bonjour.
Pour vous, qu'est-ce qu'un clash ?
Pour moi, un clash, c'est quoi ? C'est une dispute, une altercation entre deux personnes qui sont face à face, qui sont pas d'accord, quoi.
Un clash, c'est une rivalité entre deux personnes.
Un clash, en fait, pour moi, c'est deux personnes qui s'insultent, mais en disant des phrases.
Un clash, pour moi, c'est un conflit, une embrouille, une opposition entre deux personnes qui ne s'apparaissent pas forcément. C'est un climat hostile entre deux personnes. Voilà, il y a des tensions, donc un clash, c'est ça, un clash, pour moi.
C'est quand un conflit entre deux rappeurs.
C'est quelqu'un qui se bat, je sais pas.
Pour moi, un clash, c'est deux personnes qui s'affrontent avec des mots et qui se balancent quelques vannes, on va dire.
D'accord. Dans le milieu du rap, il y a eu plusieurs clashs. D'après vous, c'est du buzz ou c'est de la réalité ?
Alors, je pense qu'il y a, bon, il y a, mon avis, il est partagé. Hein. Donc, il y a eu des vrais clashs. Entre Nas et Jay-Z, je pense dans le milieu du rap. Hein. Cynic, Booba. Voilà, il y a eu pas mal de clashs, mais je sais pas, on n'arrive pas à vraiment savoir si c'est du buzz ou de la réalité. Mais je pense qu'il y a une petite part de buzz quand même, hein, parce que ça aide à vendre des CD hein, ou des albums. Et il y a une petite part de réalité. Parce qu'à la base, c'est des compétiteurs, les rappeurs. Ils appellent ça le rap game. Donc, ego trip, c'est un petit peu le jeu à celui qui a la plus grosse. Hein, hein. Ils se clashent entre eux. Donc pour moi, il y a une petite part de réalité et il y a une grosse part de buzz.
Je pense que c'est réel.
Pour moi, ça, c'est du buzz. Ils courent après l'argent, ces gens-là.
Ah bon ?
Ouais.
D'accord.
Ça, j'en suis sûr.
Il y en a, c'est de la réalité. Après, c'est du marketing, c'est du bluff, il y a tout, quoi. Un clash, tant qu'ils se mettent pas la main dessus, c'est pas un clash, quoi.
La réalité. Pourquoi ? Parce qu'après, ça se termine la nuit, dans un quartier.
C'est plus du buzz, parce que quand on regarde les gens, ils ont eu quand même beaucoup d'albums juste en se clashant.
Et les clashs sont nombreux. Ça rapporte quoi au rap ?
Au rap ? Ça dépend du contenu du clash, ce que ça rapporte au rap. Il y a des clashs qui sont vraiment artistiques où les deux rappeurs ils confrontent différentes versions versions ou visions de leur rap. Et Et il y en a où on tombe dans le ridicule, quoi. Ils mettent des vidéos sur Internet où il y a des bagarres. Où... Voilà, pour moi, c'est néfaste au rap, le clash. Quand on voit dans les réseaux sociaux des insultes, des trucs qui tirent le rap vers le bas. Parce que moi, j'aime bien le rap, mais j'aime pas le rap caricature, quoi. Ça donne de bonnes raisons aux gens de taper sur les rappeurs, quoi.
C'est bon.
Voilà.
Merci, monsieur, merci.
De rien.
Qu'est-ce que ça apporte au rap? Ben, ça apporte rien du tout. Si, ça fait des clans. Ça fait que certaines personnes choisissent leur camp. Bah, on va prendre un exemple entre Booba et Rof. Bah, il y a la team Rof, ceux qui sont avec Rof, ceux qui sont avec Booba. Bah, en gros, ça fait des parties, les clashs. Voilà.
Ça rapporte rien.
Rien.
Ça rapporte rien.
Rien de plus.
Pas mal d'argent, pas mal de notoriété. Et tout le monde se bat, on va dire, pour avoir la première place. Donc il y en a pas beaucoup de place et ça fait beaucoup de monde. Et il y en a qui rappent, ça fait bien un moment, ça fait peut-être plus de 20 ans. Et il y en a d'autres qui arrivent avec de nouveaux styles, une nouvelle population, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi les clashs font un peu le buzz. Nous, ça nous arrange parce qu'on aime bien faire un peu les commères. Mais eux, ça, quelquefois, ça les arrange, comme ça peut les tuer un peu et les mettre dans le trou, on va dire.
Nous allons maintenant débattre sur les clashs entre les rappeurs.
Bonjour, bonjour, moi c'est Idrissa. Je suis avec Daouda et Jawad. Moi et Jawad, nous savons que le rap c'est du buzz et Daouda est contre.
Ouais, pour moi, les clashs c'est de la réalité, parce que certains clashs, ça allait jusqu'au point.
Ouais, mais tu trouves pas que c'est un peu de bluff?
Bah non, pour aller jusqu'au point, c'est pas du bluff.
Daouda, toi tu nous disais que c'était du bluff, c'est ça si on a...
Non,
si
je moi je dis c'est,
pardon,
de la
excuse-moi. C'est de la réalité. Quels sont les signes qui t'amènent que c'est de la réalité? Quels sont les signes qui t'amènent à penser ça?
Bah, parce que là, il n'y a pas longtemps, Rof, il est en guerre contre Booba. Et bah, Rof, il a attaqué un employé de Booba au magasin Uncut de Booba. Et il est allé en prison. C'est pas du bluff.
Ah, ça, du coup, les gars, vous y répondez quoi, alors, sur cette histoire de bluff?
Vous pouvez pas dire c'est du bluff, ça.
Mais après, c'est un clash, c'est de la réalité, mais il y en a d'autres, c'est du buzz, comme Rof et Lafouine.
C'est histoire de vendre des CD, être populaire et tout ça.
Rof et Lafouine, ils sont jamais...
Alors, face à ça, tes collègues sont en train de renvoyer que c'est quand même une histoire commerciale.
Ouais,
est-ce que parfois, voilà, c'est une histoire commerciale, d'après toi?
Pas forcément.
Si, tu...
C'est question parce que l'autre, il croit c'est le number one et l'autre aussi. L'autre, il croit c'est le patron.
Mais ils se font de l'argent, non, derrière tout ça.
Ouais, mais c'est de la réalité quand même, les clashs.
Mais pas toujours, hein.
En fait, ça dépend des personnes qui se clashent, ça dépend.
Ouais.
Bonjour, moi c'est Maxime, le DJ de cette émission. À chaque fois que vous allez m'entendre, ce sera pour lancer une musique que j'aurai soigneusement choisie. J'espère que vous allez apprécier ma sélection. Allez, musique!
Young Moula Pace!
You thought it was over?
I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes. She be mine by halftime. I'm the shit. Ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior, and this bitch. No flamingos. And I done did every day but trust these hoes. See me fuck with.
When a rich nigga, won't you? And your nigga can't do nothing for you. She wanna fuck all the rappers.
bitch, let's get to it. We up in this club, bring me the bottles. I know, girl, that you came in this bitch with your man. That's a no-no, girl. All this money in the air, I wanna see you dance. Just got rich, took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck a broke bitch. When a rich nigga want you.
More like this, that's what they be yelling. I'm a pimp by blood, not relation. I don't chase some, I replace some. Hey, LVs, Hermes, Dolce. My hoes ain't loyal, man, they rotate. School me to the game, now I know my duty. Put her in the loader, she was riding in that hoodie. Fuck that bitch, got my own hoe. Fuck your weed, got my own smoke. Had to put my ring back on. Tell that bitch, put a ring back on.
Something. When I call her, she gon' leave. And I bet that bottom dollar she gon' cheat.
Écoutez Loyal de Chris Brown, Lil Wayne et Tyga. Ce tube est sorti en 2013.
C'est trop bien la radio.
Principe actif 102.4 FM.
Nous allons vous diffuser le reportage de Marie sur les pompiers d'Evreux.
Ok, qu'est-ce qui roule? Ok. Oui, comme d'habitude. Il y a quoi autour du buisson? Ok. D'accord, d'accord, c'est facilement accessible. Ok. Ouais, très bien, au 8 rue du docteur Michel Baudou, à Évreux, on arrive. Vous pouvez raccrocher, au revoir.
Bonjour, c'est Marie sur Principe Actif, je suis en direct au service départemental d'incendie et de secours d'Évreux pour vous présenter le métier de pompier. Je suis en compagnie de Marine, Alexia, Jordan et du capitaine Freddy Rigaud pour lui poser quelques questions. Bonjour, pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Bonjour, avant d'en faire mon métier, c'était déjà l'intérêt de rejoindre les sapeurs-pompiers. Ça s'est fait au fur et à mesure des années sans réel, sans réel événement particulier qui m'a motivé à faire cette activité. J'ai commencé à l'âge de 14 ans en devenant jeune sapeur-pompier. Donc j'ai pu découvrir quelles étaient les missions, les actions des sapeurs-pompiers, l'intérêt de travailler au service des autres, au service de la population, et puis d'avoir une activité, une activité sans routine, avec de l'action, avec de multiples facettes. Et puis cette activité de jeune sapeur-pompier m'a amené à être sapeur-pompier volontaire. Et puis en parallèle de mes études et de pratiquer cette activité de sapeur-pompier volontaire, j'ai choisi d'en faire mon métier et de passer les concours qui m'ont permis de devenir sapeur-pompier professionnel.
Ok. Quelle étude faut-il faire pour devenir pompier ?
Alors, Il y a plusieurs parcours qui permettent de pratiquer l'activité de sapeur-pompier. Tout dépend déjà si on s'oriente vers la filière de sapeur-pompier volontaire ou professionnel. En ce qui concerne la voie professionnelle, l'accès se fait par des concours. Et aujourd'hui, il y a trois voies pour devenir sapeur-pompier professionnel, donc trois niveaux d'études qui permettent de devenir pompier professionnel. Le premier niveau qui permet de débuter en tant que sapeur, donc c'est le premier grade de sapeur, c'est un diplôme de niveau 5, donc ça va être un CAP, un brevet des collèges, un BEP, quel que soit le domaine. Ensuite, il y a un concours ouvert à Bac plus 2, donc un niveau DUT, BTS, pour devenir lieutenant. Donc là, c'est l'accès en tant qu'officier de sapeur-pompier. Et puis, un troisième accès du grade de capitaine, là, qui est accessible pour les titulaires d'un bac plus 3. Donc après, les domaines d'études peuvent varier. Ce qu'il faut, c'est avoir un minimum, quelle que soit la voie vers laquelle on s'oriente, un minimum de connaissances, on va dire, pour être capable de rédiger, pour être capable de lire un certain nombre de consignes, d'avoir un esprit de synthèse, de rédaction. Voilà, faut être à la fois scientifique, à la fois des notions littéraires, savoir compter, savoir écrire. Tout ça en parallèle d'une activité physique aussi, adaptée à nos missions.
Ok. Quelles sont les missions d'un sapeur-pompier ?
Alors, les missions d'un sapeur-pompier sont multiples. Elles sont réglementées. Donc, elles sont les mêmes au travers toute la France. Il y a trois grands thèmes de missions et de compétences pour les sapeurs-pompiers, qui sont la protection des personnes, la protection des biens et la protection de l'environnement. Et plus généralement, nos missions se découpent en trois catégories. Il y a les missions pour incendie, où au niveau national, les sapeurs-pompiers sont les seuls compétents pour intervenir dans la lutte contre les incendies. Il y a le secours à personne, donc c'est une mission qui est partagée avec d'autres services tels que le SAMU. Donc voilà, le secours aux personnes. Et puis tout un tas d'interventions diverses, telles que les protections de biens, les arbres qui menacent de chuter sur la voie publique, les interventions pour des inondations. Voilà, toutes ces interventions finalement qui ne sont ni du secours à personne ni de l'incendie, mais qui à un moment donné vont avoir un degré d'urgence qui nécessite une intervention des secours.
Pouvez-vous nous décrire la journée type d'un sapeur-pompier ?
Alors la journée type d'un sapeur-pompier, elle dépend généralement du centre de secours dans lequel il est affecté, en fonction de l'activité et puis du type de centre, si on est sur un centre à dominante volontaire ou à dominante professionnelle. Généralement, l'activité, par exemple, pour une garde de 24 heures, pour un sapeur-pompier, elle va débuter par l'appel, c'est-à-dire qu'on va le matin s'assurer que tout le monde est présent et distribuer les fonctions de chacun. C'est-à-dire que au sein d'une garde, au sein d'une équipe de sapeurs-pompiers, chacun va avoir des rôles différents au cours de la journée et du fonctionnement du centre de secours. Et donc le matin, généralement, commence par l'appel et puis par une vérification des engins. Tous les sapeurs-pompiers vont vérifier le matériel, vérifier les engins du centre de secours, s'assurer que tout est en bonne place et en bon fonctionnement. Et puis la journée va s'enchaîner par la séance de sport. Donc c'est une séance pour vérifier et s'entretenir à l'aptitude physique. Et au cours de la journée, il va y avoir également ce que l'on appelle la manœuvre. La manœuvre, c'est une séance d'instruction, une séance de formation, puisque on a vérifié les matériels, on a vérifié le physique du personnel par l'entraînement sportif, et puis on va vérifier les compétences techniques des personnels en faisant de la formation. Donc on va s'entraîner, on va manœuvrer sur les différentes techniques professionnelles et opérationnelles. Et puis tout au long de la journée, il y a également des travaux d'entretien du centre de secours, des travaux d'entretien des matériels, de la rédaction de documents opérationnels qui vont aider à l'intervention, et puis tout un tas de tâches administratives. Donc généralement, durant 8 heures de la journée, le sapeur-pompier a ses activités cadrées qui vont être entrecoupées avec les interventions. Donc ça, c'est la journée type telle qu'elle doit se dérouler sur le papier, mais généralement, elle ne se passe pas comme ça et elle est interrompue par les interventions que vont réaliser les équipes.
Que faites-vous quand vous n'êtes pas en intervention ?
Alors voilà, hors intervention, il y a toute une période où les activités sont cadrées pour assurer le fonctionnement du centre de secours. Ce sont les actions que je viens de vous citer. Et puis sinon, le personnel, lorsqu'on est dans un centre de secours où les personnels sont en garde postée, les personnels sont maintenus au centre de secours. Et puis là, ils ont quartier libre pendant les 24 heures ou les 12 heures de garde. Et puis dans certains centres de secours, on va fonctionner avec de l'astreinte, c'est-à-dire que les personnels sont à leur domicile et ils ne viennent au centre de secours qu'au moment où ils sont déclenchés. Donc voilà, en dehors de l'intervention, il y a tout un tas d'activités dirigées, de la formation, de l'entretien, de l'activité physique, et puis des quartiers libres en attente d'intervention.
Quelle est la différence entre le sapeur-pompier professionnel et le sapeur-pompier volontaire ?
Alors, il y a des différences de statut, c'est-à-dire que le sapeur-pompier professionnel, être sapeur-pompier, c'est son métier, c'est son activité à temps plein, alors que le sapeur-pompier volontaire, lui, a une activité professionnelle bien à part, et il exerce son activité de sapeur-pompier en plus. Ce n'est pas son métier. Donc voilà les deux grosses différences. Il y en a un dont c'est la profession et l'autre dont c'est une activité complémentaire. Par contre, c'est tout à fait transparent pour la population, puisque les compétences, les tenues sont les mêmes, et il est impossible à la population qui va bénéficier des secours de différencier un sapeur-pompier professionnel d'un sapeur-pompier volontaire. Les missions sont les mêmes, les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels peuvent tenir les mêmes fonctions, avoir les mêmes participer aux mêmes missions et apporter la même qualité de secours à la population.
Maintenant, avec Marie, nous allons parler du CTA.
Pouvez-vous nous expliquer le rôle du CTA ?
Alors, le CTA, c'est le centre de traitement de l'alerte. C'est l'unité qui, au sein du département de l'Eure, il n'y a qu'un seul centre de ce type au niveau du département, va recevoir tous les appels de secours destinés aux sapeurs-pompiers. Donc, le numéro d'appel des sapeurs-pompiers, c'est le 18. Et il y a un numéro unique d'urgence qui est le 112. Sur le plan européen, le 112 permet de joindre tous les services d'urgence, les sapeurs-pompiers, la police ou la gendarmerie, et puis le SAMU. Et dans le département de l'Eure, ce numéro 112 est reçu au niveau du centre de traitement de l'alerte, au niveau du CTA. Et donc le CTA va recevoir les appels de secours, et donc comme son nom l'indique, traitement de l'alerte, on va traiter ces appels, on va prendre toutes les informations et ensuite on va envoyer les éléments aux centres de secours qui sont répartis sur tout le département, qui sont au nombre de 59 et qui eux vont réaliser les interventions.
Environ combien d'appels recevez-vous par jour ?
Le centre de traitement d'alerte reçoit par période de 24 heures environ 450 appels en moyenne. Sachant que sur le plan départemental, on va traiter un peu plus de 100 interventions par période de 24 heures. Donc il y a à la fois des appels, on a des fois plusieurs appels pour une même intervention, et puis des fois on a des appels qui n'aboutissent pas à une intervention des sapeurs-pompiers.
Quelle est la nature de ces appels ?
Alors, les appels reçus au niveau du centre de traitement de l'alerte sont de diverses natures. Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont réalisé, par exemple, en 2013, 42 450 interventions et nous avons traité 460 000 appels au niveau du CTA. Donc, nous avons traité quasiment 10 fois plus d'appels que d'interventions. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des appels qui sont des appels de secours pour les missions des sapeurs-pompiers. Il y a ensuite des appels de secours mais qui ne sont pas destinés aux sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que les personnes qui font appel au secours ou qui ont besoin de secours ne vont parfois pas se rappeler du bon numéro. C'est-à-dire qu'au lieu de composer le 17 pour avoir la police ou la gendarmerie ou de faire le 15 pour avoir le SAMU, ils vont faire le 18 et à ce moment-là, le CTA va retransférer cet appel au service de secours compétent. Donc voilà, il y a des appels de secours mais qui ne relèvent pas des sapeurs-pompiers. Il y a ensuite des gens qui appellent les sapeurs-pompiers mais pour des motifs qui ne relèvent pas de nos missions. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas véritablement toutes les missions de sapeurs-pompiers et dans le doute vont faire appel à nos services. Donc à ce moment-là, nous les orientons vers le service qui serait compétent. Il y a ensuite malheureusement un grand nombre d'appels, ce qu'on appelle des appels malveillants, c'est-à-dire que les gens appellent les sapeurs-pompiers soit pour faire de mauvaises blagues ou alors des appels intempestifs pour, on va dire uniquement pour déranger. Et puis il y a aussi des appels, des appels par inadvertance, les gens qui composent le numéro sans faire exprès, qui laissent le téléphone dans les poches ou dans le sac et puis sans verrouiller le clavier et puis le numéro qui va se composer tout seul. En tous les cas, nous traitons ici un appel toutes les 1 minute 15.
Combien y a-t-il de personnes qui s'occupent de ces appels ?
Alors, l'effectif du centre de traitement de l'alerte est composé par jour de 5 à 6 opérateurs. Ce sont des personnels qualifiés qui sont destinés à décrocher tous ces appels et à les traiter. Et ces salles opérationnelles sont sous la responsabilité d'un superviseur qui est un chef de salle. Donc généralement, le CTA est couvert par 5 à 6 opérateurs et un chef de salle.
Y a-t-il une formation spécifique pour travailler au CTA ?
Alors oui, en tout cas pour ce qui est de la fonction d'opérateur, donc les personnels qui décrochent les appels d'urgence, c'est une fonction qui demande des compétences et des formations multiples, puisqu'il faut d'une maîtriser l'outil informatique, puisque le traitement de l'alerte se fait par un outil informatique. Tous les appels que nous recevons et tous les renseignements que nous pouvons collecter au cours de ces appels, nous les renseignons sur un fichier informatique, et c'est ce fichier informatique qui ensuite est envoyé vers le centre de secours. Donc il faut des compétences pour l'informatique, il faut des compétences pour avoir le contact avec les personnes. Il faut avoir des compétences pour avoir cette relation avec la personne, parce que entre téléphoner à un ami, à sa famille où tout se passe bien, c'est une chose, mais traiter un appel avec quelqu'un au bout du fil qui est complètement paniqué, qui n'est pas en mesure de donner simplement son adresse, d'expliquer ce qui se passe, il faut arriver à calmer la personne, et puis il faut arriver malgré tout à la calmer, à la guider pour qu'elle puisse donner tous les éléments qui vont permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe et que l'on ne sait pas où ça se passe, eh bien on ne pourra pas envoyer d'équipe de secours. Et puis l'autre compétence importante d'un opérateur, c'est de pouvoir, en plus d'envoyer les secours, de pouvoir donner des conseils et faire prodiguer des gestes de premier secours à la personne qui appelle. Par exemple, la personne qui appellera pour un incendie, c'est lui donner des conseils de sécurité pour qu'elle puisse à un moment donné soit se mettre à l'abri dans son appartement, soit évacué dans de bonnes conditions. Et puis, de manière très régulière, les opérateurs sont amenés à recevoir des appels de personnes qui sont témoins, par exemple, d'une hémorragie, qui sont témoins d'un accident ou qui sont témoins d'une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Et à ce moment-là, il faut, par téléphone, indiquer à la personne qui est au bout du fil et qui est paniquée et qui n'est pas formée pour cela, à prodiguer des gestes de premier secours. Donc là, c'est une mission que l'opérateur doit réussir à faire avec beaucoup de sang-froid et en étant très, très pédagogique sur la manière dont il va expliquer à la personne comment réaliser des gestes qu'elle ne connaît pas.
Ok, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était le reportage de Marie sur les pompiers d'Evreux.
C'est le moment de la deuxième pause musicale. C'est une chanson que j'écoute régulièrement. Fermez les yeux, écoutez et appréciez.
Yo, Jason. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her.
I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
You know what to do with that big fat butt.
Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Just a little bit of
patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt.
Wiggle, wiggle, wiggle.
Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, Ollie, you that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Oh,
yeah. Wiggle, wiggle, wiggle.
Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again?
Come on.
Wiggle, wiggle, wiggle. Damn, baby, you got a bright future behind you.
Vous venez d'écouter Wiggle de Jason Derulo et Snoop Dogg. Ce tube est sorti en 2014.
Tu veux faire péter du son à don dans tes oreilles? Yo man!
Attends, j'ai des potes qui font de la radio amateur. On va aller les voir.
Principe actif, 102.4 FM.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mohamed et je viens vous présenter aujourd'hui le projet Maroc. Je suis français d'origine marocaine et aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, c'est un voyage humanitaire de 12 jeunes qui partent en voyage au Maroc. Et c'est un voyage humanitaire, je le répète, parce que le Maroc, c'est pas un pays très très développé. Le voyage, il a pour but de ramener du matériel informatique, des vélos, des matériaux scolaires. Depuis un an, les jeunes de Netreville, ils ont monté plusieurs actions pour récolter des fonds. Par exemple, l'organisation de plusieurs soirées, la tenue de buvette, les événements organisés à Netreville et les emballages de cadeaux de Noël dans les grandes surfaces. La participation aussi est vente à la foire et à la puriculture de Netreville, un atelier couture sur place. L'objectif du voyage qui se déroulera durant les vacances d'octobre 2014 sera de participer à la rénovation du chantier d'une bibliothèque, comme la peinture de finition, refaire le sol et le carrelage, les étagères pour accueillir les livres, CD, etc. L'installation de 5 à 8 ordinateurs, le câblage informatique et le matériel sonore. Divers autres travaux de rénovation aussi. Car certains villages ont vraiment besoin d'aide et c'est aussi pour que l'on puisse se rendre compte que nous, jeunes Français issus de l'immigration, on est des privilégiés par rapport à un jeune qui vit et qui de même âge que nous, qui vit à 2500 km d'ici.
Merci Mohamed. Bonjour, je m'appelle Lisa. Je suis là pour interviewer Monsieur Brahim Toui, animateur de territoire au sein de l'association Netrevilia. J'ai 10 questions à vous poser. Bonjour Brahim.
Bonjour.
Je vais te poser quelques questions. Commençons ainsi. Comment est venue l'idée de participer à un projet solidaire ?
En fait, tout simplement parce que j'ai été, depuis mon plus jeune âge,
J'ai voulu participer à des actions humanitaires un petit peu partout dans le monde. Quand on regarde autour de nous un peu comment ce qui se passe, comme disait Mohamed tout à l'heure, on est des privilégiés. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai voulu organiser moi-même en fait un voyage humanitaire avec des jeunes issus justement des quartiers difficiles.
D'accord. Quel est votre rôle dans l'évolution de ce projet ?
En fait, je suis à la base du projet. On travaille maintenant depuis 2 ans avec les jeunes pour faire aboutir ce projet.
Pourquoi avez-vous choisi le Maroc ?
Pourquoi le Maroc ? Tout simplement parce que je suis d'origine du Maroc et j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai voulu, j'ai choisi un pays que je connais de culture, mais aussi de la langue et les connaissances que j'ai aussi sur place ont fait que mon choix était facile à faire. Voilà.
Quel est le coût d'un tel projet ?
Voilà, on parle déjà d'argent. Donc là, pour un projet comme celui-ci, il est à plus de 17 000 euros. Voilà. Donc c'est un chiffre qui ne vous dit pas grand-chose, mais dans les 17 000 euros, il faut compter quand même le voyage pour 12 jeunes, plus, les animateurs qui vont participer à ça.
Merci. Qui vous aide à financer ce projet ?
Alors là-dessus, on a fait plusieurs demandes de financement. Donc d'abord par la ville, par la région et les ministères des Affaires étrangères. Voilà. Et après, c'est tout ce que les jeunes ont pu faire, toutes les actions d'autofinancement. Voilà.
Combien de temps partez-vous ?
Alors, on est parti pour 15 jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait prévu de partir au mois d'avril. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons financières, parce que ça a un coût. Donc là, on l'a reporté du 17 au 31 octobre. Donc, ce qui fait 15 jours.
Merci. Depuis quand de temps travaillez-vous sur ce projet ?
Depuis maintenant près de 2 ans. Là. Au mois de juillet, ça fera 2 ans. En fait, depuis la première soirée qu'on a fait. Voilà.
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors des différentes étapes ?
Alors, le principal, on va dire, la première chose, c'était de créer un groupe chez les jeunes, déjà, qui avaient envie de le faire. C'est pas facile, alors, pour des jeunes de 12 à 17 ans, et de s'engager, parce que c'est quand même un engagement. Parce que leur demande d'être présent, leur demande de faire des actions et tout ça, d'autofinancement pour que eux ils puissent quand même travailler pour ce projet.
Et enfin, combien d'argent avez-vous récolté lors de vos actions ?
Alors pour les actions avec les jeunes, les actions d'autofinancement, on est passé à 1700 euros. Ce qui fait qu'on est loin de, la vérité. On a la chance d'avoir eu les plus gros des financements justement par le biais de la ville, par le biais de le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Sinon, on n'aurait pas pu faire aboutir ce projet. C'est D'accord. pour cela aussi qu'un projet de telle envergure prend beaucoup de temps.
Merci. Au revoir.
Merci à vous.
Ouais. L'émission touche à sa fin.
Nous remercions mes camarades et moi de nous avoir écoutés. Nous remercions Timothée et JC, Principe Actif, Le Biche, Le Réagi et mes collègues de nous avoir permis de faire cette émission. Nous reviendrons en septembre. Au revoir et passez de bonnes vacances.
Salut!
Salut!
Au revoir!
Bye bye!
Dédicace à mon père! Frère.
D'accord, tout le monde!
À ma soeur!
Sydney,
petite dédicace à ma soeur!
Dédicace à toute ma famille, à Kama!
À mes deux frères! À Quentin et Kevin!
Abrahim! Dédicace à Abrahim!
Salut!
Bordel!
Au revoir! Bordel! On est trop tard! Kama, emmène-moi! Kama, emmène-moi au Maroc!
Des quartiers.
C'était impressionnant quand même.
Attends, le toi, toi, non, mais toi, tu dois lui dire les signes. Tac, ah. Et là,
vas-y, vas-y, arrête d'approcher comme ça.
Je mais oui, t'es obligé, c'est bon, on entend.
Là, là, je coupe pas.
Je dis bonjour.
T'es
en train.
Vas-y, tu connais.